L'histoire de la princesse
ou le procès de la Belle au bois dormant
de Sonia Ristich
avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.
Scène 1.
Il était une fois.
Il était une fois.
Assassin !
Meurtrière !
Monstre !
Monstre vous-même !
C'est l'histoire de la Belle au bois dormant.
Libérez-la !
Pendez-la !
Oh, et cours !
Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire.
Tu racontes mal ! C'est pas comme ça qu'on raconte les histoires ! Tu vas trop vite ! Les débuts, c'est important. Il faut bien raconter le début.
Signez la pétition ! Libérez la princesse !
Il était une fois dans un lointain royaume.
Il était loin comment, le royaume ?
On veut la chaise électrique !
Fasciste !
Un château et un roi et une reine.
Mais zut alors, à la fin ! Faites un effort ! Je suis une petite fille. Racontez-la bien, l'histoire. La Belle au bois dormant. C'est archi important pour les petites filles. Comment croyez-vous que je vais réussir à me construire en tant que femme si dès le départ vous bâclez tout ? Il faut accompagner les filles dans leur devenir femme. Flûte et rosute, vous voulez que je vire comme elles ? Qu'en guise de rite initiatique de l'apprentissage de ma féminité, je me mette à poser des bombes ? Je parie que si ses parents lui avaient raconté les histoires comme il se doit, on n'en serait pas tous là. Alors on recommence, et on fait ça bien.
Mais c'est écrit comme ça dans la version de Charles Perrault, publiée en 1697 avec les contes de ma mère Loi.
Rejoignez les grévistes de la faim.
Tolérance zéro pour les terroristes.
Signez la pétition.
Nettoyez la vermine au karcher.
Sauvez la princesse.
Vos gueules.
Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ça commence exactement comme ça.
Mais je me fiche, me refiche et me contrefiche de Perrault et de sa mère la dinde. Si c'est un conte de fées, il faut le raconter comme un conte de fées. Saperlipopette, avec il était une fois, plein de chiffres 7, un prince charmant, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est comme ça qu'on éduque les petites filles.
Ok, on tourne. Nous nous trouvons actuellement devant la cour des assises. Vous pouvez voir derrière nous le bâtiment cerné par les journalistes et les manifestants. L'ambiance est électrique. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ce matin que les dispositifs de sécurité ont été renforcés et que le plan Vigipirate de niveau 7 sera en action pour toute la durée des audiences de ce que déjà nos confrères de la presse appellent le procès de la Belle au bois dormant. Procès qui sera retransmis en exclusivité par notre chaîne grâce à nos généreux sponsors de l'industrie pharmaceutique.
Alors qu'il me semble que nous apercevons quelque chose, oui, ce doit être l'arrivée des avocats de la défense que nous n'allons pas tarder à rejoindre, mais avant, toute chose, je suis avec deux nombreux spécialistes convoqués à ce procès et une petite fille qui vont tenter de nous accompagner pour essayer de comprendre l'incompréhensible, l'impensable, l'innommable, ce qui fut l'épopée la plus sanglante de notre époque. Pouvez-vous, juste avant le début officiel de l'audience, resituer pour nos téléspectateurs comment cette crue de violence, cette dérive a commencé ?
Mais c'est pas possible !
Alors, il était une fois.
Dans un royaume far, far away.
Loin, 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 loin.
Car il se trouvait derrière sept mers.
Sept montagnes.
Sept plaines.
Sept fleuves.
Sept forêts.
On a compris.
Un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, menus dévotions, et rien n'y faisait. Enfin pourtant la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays.
Il s'en trouva 7.
Afin que chacune d'elles lui faisant un don, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables.
Il me semble important de préciser que même si on ne peut pas certifier de l'identité de la princesse, tout porte à croire que la jeune femme à l'allure angélique qui se tiendra bientôt dans le box des accusés est bien la Belle au bois dormant.
Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif.
Bon, s'il vous plaît, venons-en au fait.
Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée.
Parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était pas sortie d'une tour.
Le roi lui fit donner un couvert, mais pas moyen de lui donner un étui d'or massif, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents.
Vous voulez dire qu'il s'agissait là d'un incident diplomatique ?
Arrêtez de nous interrompre ! Vous êtes pénible à la fin !
Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer le mal que la vieille aurait commis. Les fées commencèrent. La plus jeune dit
« Qu'elle serait la plus belle personne du monde. »
Celle d'après
« Qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. »
La troisième
« Qu'elle aurait une grâce admirable. »
La quatrième
« Qu'elle danserait parfaitement. »
La cinquième
« Qu'elle chanterait comme un rossignol. »
Et la sixième
« Qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments. »
Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit
« Que la princesse percerait la main d'un fuseau. » Et qu'elle en mourrait.
Ce terrible don fit frémir toute la compagnie.
À ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit
« Nous exigeons la peine de mort !»«
La peine de mort est abolie, facho !»«
Gaucho !»«
À mort !»«
Silence, nous sommes à l'antenne !»«
Média collabo ! Média collabo !»
À ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit
« Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. »
Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne d'avoir un fuseau chez soi.
Chers téléspectateurs,
nous allons vous retrouver dans un instant.
Juste après une page de publicité.
Scène 2.
Ennemi sur mesure.
Il paraît que...
On dit que...
Mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs des médias, mesdames et messieurs de l'opinion publique, il n'y aura que des faits, des dates, des chiffres, nombre de victimes, quantité d'explosifs...
Il paraît que...
On dit que...
Mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs des médias, mesdames et messieurs de l'opinion publique, l'accusation alignera certainement des dates et fera pleuvoir des chiffres. Mais jamais l'accusation ne pourra établir rien qui ressemble de près ou de loin à une preuve, rien qui puisse relier l'accusé de façon incontestable aux faits qui lui sont reprochés.
Les personnages de contes de fées jouissent d'un important capital de sympathie auprès du grand public, mais ne nous laissons pas avoir. À ce procès, plus que jamais, il nous faut contempler les faits avec la lucidité et la clairvoyance de l'adulte qui assume sa responsabilité de citoyen.
Ce que l'accusation fera à ce procès ne sera rien d'autre que l'illustration parfaite d'un cours de coupe et de confection ou comment fabriquer un ennemi sur mesure.
On dit
qu'elle a pris des leçons de pilotage et qu'elle a déclaré ne pas avoir besoin de cours d'atterrissage.
Il paraît
qu'elle s'est alliée avec les grévistes, les cheminots,
les étudiants et les artistes.
On dit
qu'elle a fourni une motocyclette à un mollah.
Il paraît
qu'elle a mis le feu aux nappes de pétrole, brûlé des drapeaux.
Et qu'elle a même sifflé pendant l'hymne national.
On dit
qu'elle a porté des t-shirts noirs et des cagoules, qu'elle a lancé des pierres.
Qu'elle a organisé des pillages pendant les émeutes.
Il paraît
qu'elle a introduit des clandestins, qu'elle a arnaqué les caisses d'aide sociale.
Qu'elle a soutenu des mariages blancs, qu'elle a scolarisé des enfants de sans-papiers.
La pulsion de la violence, le non-respect des lois, le mépris de la vie humaine.
Est-ce d'elle que l'on parle ou du monde où elle s'est trouvée projetée?
Ne pas se tromper d'ennemi. Ici, ce n'est pas le procès de la société que nous faisons, mais celui d'une terroriste.
Trotskiste.
Anarchiste. Altermondialiste.
Qui a avoué...
Rien du tout.
Des centres commerciaux ont volé en éclats.
De nombreuses alertes à la bombe dans les gares, les compagnies d'assurance.
Les laboratoires pharmaceutiques.
Il y a eu des victimes.
Des banques ont été braquées.
Des émeutes ont éclaté.
Des guérillas se sont organisées.
Des barricades ont été érigées.
Il y a eu des victimes.
Des avions ont été détournés.
Des prises d'otages ont eu lieu.
Il y a eu... des victimes et ces actes ont été revendiqués.
À chaque bombe.
Dans chaque gare.
chaque compagnie d'assurance.
Banque.
Laboratoire pharmaceutique.
Supermarché.
Aéroport.
À chaque émeute.
Chaque cocktail Molotov.
Chaque jet de pavé.
À chaque avion détourné.
Chaque prise d'otage.
La police a reçu un coup de fil.
Anonyme.
Un communiqué officiel.
On dit que c'était des lettres manuscrites. À l'ancienne.
Et pourquoi pas des billets doux?
Il paraît qu'il s'agissait de fax.
De mails.
Il y aurait eu aussi des textos.
Et des pigeons voyageurs.
Pour preuve, nous n'aurons que des on-dit et des il paraît.
À chaque attentat, elle a dit « c'est moi ». Chacun de ses actes a été revendiqué par la belle au bois dormant.
À chaque fois, la princesse apparaît sur les films des caméras de surveillance.
Elle était là, à chaque fois présente sur les lieux.
Des on-dit, des il paraît. Des concours de circonstances, des hasards, des extrapolations, pour créer de toutes pièces l'ennemi indispensable. L'État policier, les lobbies financiers et militaires, les médias, une partie de l'opinion publique ont œuvré ensemble afin d'inventer la parfaite fautive, celle qui cristallisera toutes les peurs et de ce fait assurera la longévité de ce même état policier, de ces mêmes lobbies financiers et militaires. Une ennemie sur mesure.
Scène 3.
Pour en finir avec le prince charmant.
Mesdames et messieurs, la cour.
Vous pouvez vous asseoir.
La suite du conte.
Au bout de 15 ans, il arriva que la jeune princesse tomba sur une vieille qui filait sa quenouille, n'ayant point ouï parler des défenses que le roi eût fait.
« Que faites-vous là, ma bonne femme ?»
dit la princesse.
« Je file, ma belle enfant, »
lui répondit la vieille.
« Oh, que cela est joli !»
reprit la princesse.
« Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant. »
Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que comme elle était fort vive, un peu étourdie.
Et que l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi.
Elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, mais rien ne la faisait revenir.
Pourrions-nous en venir au fait?
Il nous semble important de reconstituer l'histoire.
Mais nous la connaissons tous, l'histoire de la Belle au bois dormant.
Ce que nous allons démontrer, c'est que nous ne la connaissons pas si bien que ça, qu'il y a certains épisodes qui restent obscurs et que leur éclaircissement pourrait bien constituer des circonstances atténuantes.
L'accusé plaide non coupable, pourquoi aurait-on besoin de circonstances atténuantes?
La suite du conte!
Permettez-nous de continuer.
La narration est priée d'abréger.
Alors le roi se souvint de la prédiction des fées, et fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais.
On eût dit un ange tant elle était belle. On l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte.
Le roi ordonna qu'on la laissât dormir jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. Le roi et la reine sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher.
Nous perdons patience.
Il crut dans un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité d'arbres, de ronces et d'épines entrelacées que bête ni homme n'y aurait pu passer.
Nous y venons.
Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, étant allé chasser de ce côté, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais.
On craque.
Chacun lui répondit, selon qu'il en avait ouï parler.
Par pitié.
Épargnez-nous toutes ces fioritures.
J'en ai ras le popotin, si c'est comme ça, je dis plus rien.
Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan lui dit qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qu'elle y devait dormir 100 ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. Le prince, à ce discours, se sentit tout de feu, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir ce qu'il en était.
La narration est vraiment...
Vraiment...
Vraiment priée de résumer.
Le prince traverse la forêt enchantée, arrive jusqu'à la princesse, l'embrasse. Elle se réveille.
Et ils vécurent heureux?
Jusqu'à la fin des temps?
Non.
Elle s'échappa du conte de fées, s'installa illégalement chez nous et commit une longue et sanglante série d'actes terroristes.
Objection.
Retenu.
Poursuivez.
Contrairement à ce que l'on croit, l'histoire de la Belle au bois dormant ne s'arrête pas au réveil de la princesse. Le prince amène la princesse et ses deux enfants dans le château de sa mère ogresse, puis part à la guerre. Pendant ce temps, la reine décide de manger la princesse et les deux enfants. Pour ce, la défense appelle les psys à la barre.
Le conte relate, du point de vue psychanalytique, le devenir femme, un processus initiatique symbolisé par le fuseau sur lequel la belle se pique le doigt, qui est l'arrivée de la sexualité.
Le prince charmant n'est en fait qu'une figure accessoire, la trame du conte mettant en scène les différentes phases de la vie d'une femme. L'enfance, l'adolescence et la jeunesse représentées par la princesse. La mère représentant l'âge adulte, la fécondité et la grossesse, et la vieillesse incarnée par la fée Carabosse.
Merci de nous éclairer, mais quel rapport ?
Nous cherchons à retracer et à comprendre l'enchaînement des événements qui précèdent l'exil de la princesse.
Continuez.
Mais ne vous étalez pas.
Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla.
Oh.
Et regardant le prince charmant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre,
est-ce vous, mon prince ? Vous vous êtes bien fait attendre.
Le prince, charmé de ses paroles, l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage.
Mais à partir de ce point, les versions divergent.
Revenons un instant sur le sommeil de la princesse. L'adolescence est une période d'alternance de phases de léthargie et de phases d'activité frénétique et comportements dangereux, qui sont des rites de passage. Le sommeil de la belle illustre ceci, en définissant l'adolescence comme une longue période de concentration sur soi.
Mais ce qui est surtout mis en lumière est le désir des parents de retarder son éveil sexuel. La quenouille symbolise l'organe sexuel de l'homme. L'incident de la piqûre empêche la jeune fille, pas encore femme, d'avoir accès au désir sexuel en la plongeant dans un profond sommeil narcissique.
Récapitulons. Dans la version la plus connue, relatée par les Grimm, le prince embrasse la princesse. Elle se réveille et ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Or, nous savons que l'histoire ne s'arrête pas là.
Et comment ?
L'intrigue, selon diverses sources, contient d'autres différences notables. Le prince, pas si charmant, ne réveille pas la princesse par un baiser énamouré, mais abuse d'elle dans son sommeil. Et lorsqu'elle donne naissance à ses deux enfants, l'un d'eux lui tète le doigt, ôtant l'écharde de l'un, et la réveille ainsi. D'un baiser salvateur, on passe au viol, et à une belle-mère, ogresse.
Tout cela devient
de plus en plus confus.
Mais la belle au bois dormant, que désire-t-elle ?
Quelle est la forme de son désir ?
La défense appelle la princesse à la barre.
Il était temps !
Scène 4.
L'échappée.
La princesse.
Ce n'est pas le temps qui me mange, mais la peur que je me fais de lui.
Plaît-il ?
Ce n'est pas le temps qui me mange, mais quand il joue de la mélancolie, qu'il accélère et me bouscule, ou ralentit et m'oublie.
Hein ?
Quitter le conte de fées, ce ne sont pas des larmes. Ça fait des bulles d'eau dans les veines. J'ai l'impression d'avoir troqué mon sang avec celui d'un mort.
Elle délire.
Reprenons un peu plus tôt dans la chronologie. Combien de temps, précisément, avez-vous dormi ?
Trop longtemps.
C'est précis, ça.
Foutez-lui la paix, on sait rien ! Elle pionçait !
Vous dormez, donc.
Et vous attendez le prince charmant ? Je n'attends rien. Je n'ai rien à attendre, puisque je n'ai pas de choix à faire. Je ne décide rien. Je peux dormir et attendre que la prédiction se déroule. Je viens d'un conte de fées. d'une mécanique implacable et bien huilée, où les événements futurs sont annoncés dans la donne de départ. Je suis un personnage de tragédie antique et je dois me coucher sur ce temps horizontal, linéaire, qui chemine inexorablement vers l'accomplissement du destin.
Mais La Belle au bois dormant est un conte de fées.
Et non une tragédie grecque.
Ça, c'est une question de point de vue.
Mais alors ?
Ce que l'on vient d'entendre.
Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et regardant le prince charmant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre.
Non. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
Mais il s'agit d'un conte de fées.
Pas d'une guerre.
Ça aussi, c'est une question de point de vue.
Ah.
Oui, c'est sa version. À lui. Devenue la version officielle.
Lui ?
Le prince charmant. Il a raconté ça. La presse a relayé. L'opinion publique, depuis la nuit des temps, en a fait une vérité à transmettre.
L'accusé cherche à nous embrouiller. Une vérité, on sait que c'en est une, en écoutant le bon sens commun.
Comme quand le soleil tournait autour de la Terre ?
Objection !
Reprenons.
Donc, le prince s'enfonce dans le bois, passe les épines, l'abaisse.
Tenez-vous. Mais que désire la princesse ? On sait combien le désir des dames trouble les hommes. Que la princesse soit endormie n'est pas pour leur déplaire. Ce prince est ordinaire. Il baise la princesse, lui fait des enfants, puis part en guerre. Lui ou un autre, la belle affaire.
Et elle, elle n'a guère à désirer. Les fées l'ont comblée de dons. Et si la princesse désirait se piquer, justement, et si elle désirait dormir 100 ans dans le bois et sans rien faire que dormir, se laisser baiser, quelle douce perspective.
S'il vous plaît.
Pour cela, il faut la vieille. La princesse court vers la vieille. Qui est sa mort ? Qui est son sommeil ?
Ne désire-t-elle pas la mort ? Le sommeil est la forme suave de la mort.
Retenons ces mots. Le désir de la mort. C'est l'accusée elle-même qui a dit guerre, qui a dit tragédie. C'est en elle, depuis toujours, la mort, la destruction, la violence.
Objection !
Retenu.
Même si on commence à être largué.
Ma vie, dès le premier souffle, a été régie par un destin. Aucun choix. Aucune décision qui m'appartienne. Aucune liberté. Tu dormiras 100 ans et le patin du prince charmant te réveillera. Tu vivras avec lui jusqu'à la fin des temps et tu auras beaucoup d'enfants. Tu n'as pas d'état d'âme à avoir, de choix à faire, de décision à prendre. Tu fermes ta gueule et tu obéis aux prédictions.
Mais de quoi se plaint-elle ? Les fées l'ont comblée !
Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Que sont devenus les enfants ?
Il n'y en a jamais eu, des calomnies tendant à salir l'image de la princesse dans l'opinion publique, en la faisant passer pour une mère indigne.
Reprenons.
Hypothèse.
La belle-mère et la princesse ne sont que deux formes, jeune et vieille, de la même femme toujours déclinée. Leur désir est de mort.
C'est-à-dire de vie complète. Quel fil la quenouille ou quels embrouilles des serpents, le monde leur appartient.
Oui. J'ai réalisé un jour que le monde m'appartenait. J'avais tout et aucune liberté de choix, de décision. On m'avait condamnée au conte de fées en me privant du monde.
Pauvre petite.
Je voulais pouvoir décider de mon sort. Je voulais faire des choix, prendre des risques. Je voulais dévorer le temps et la vie, pas en rêvasser de loin au milieu du bois dormant. Je ne voulais pas le prince charmant. Je voulais le monde.
Toutes les jeunes filles veulent le prince charmant.
Que vouliez-vous ?
Rien au départ. Ou du moins, je ne savais pas ce que je voulais. J'étais la belle au bois dormant. Sans désir. C'est lorsque je me suis réveillée que ça a commencé.
Quoi ?
La mélancolie. Le sentiment de ne pas être à ma place. De ne pas pouvoir me satisfaire de la place assignée. La mélancolie, d'abord. Puis commencer à savoir ce que je ne voulais pas. Et la possibilité de vouloir qui pointe.
Que vouliez-vous ?
Je voulais le monde. Vaste. Merveilleux, dément, le monde qui rit même quand il pleure, le monde qui gronde. Je voulais des saisons de pluie et de sable, des rivières en crue et des mers enragées. Je voulais des villes, de l'asphalte et du métal, du bruit et de la fureur, de la vitesse et de l'ivresse, de la sueur, du sperme et du sang, que ça batte dans mes tempes, que ça hurle dans mon ventre. Je voulais de vraies larmes et de vrais rires. Courir et m'écrouler et me relever et marcher, avaler la terre de mes jambes, de mes yeux, de mes oreilles. Je voulais mordre dans la pierre et tout vomir et recommencer et tomber souvent pour la joie violente d'étreindre le monde. Je voulais l'amour, celui qui secoue, qui bouleverse, qui fait tout péter. Je voulais me jeter de la falaise et me sentir vivre. Je voulais m'appartenir. On ne m'avait pas donné le monde. On m'en avait privé.
Alors je l'ai pris. Je m'en suis emparée.
Elle a disparu un jour. Elle est partie sans rien dire, sans rien emporter. Elle a traversé sept mers, sept montagnes, sept plaines, sept fleuves, sept forêts. Elle a marché, fait de l'autostop, pris des trains, des bateaux, des avions. Elle s'est jointe aux gitans, aux gens du voyage, aux saltimbanques. Elle a traversé à fond de cale avec les clandestins. Elle a monnayé son corps auprès des passeurs.
Le monde était-il à la hauteur de vos espérances ?
Oui, et plus encore.
Et alors ?
Scène 5.
L'immensité du ciel.
C'est à ce moment-là qu'a lieu la rencontre avec l'homme de sa vie. Il neige.
J'ai froid aux pieds.
Cela se passe où ?
C'est dans le monde, toujours. Contrairement à ce qui se raconte, la princesse ne l'a jamais quitté. Sa trajectoire est droite, comme un jet de pierre. De là-bas jusqu'ici, en ligne droite.
Là-bas ?
Ici ? Là-bas, ici, c'est pareil.
Que voulez-vous dire par là ?
C'est juste de la géographie, ça ne change rien.
Précisez.
On a beau déménager, on a toujours la même tête.
Mais vous nous avez dit le contraire.
L'un n'empêche pas l'autre.
Elle dira.
Ma vie n'est que contradiction.
Elle dira tout.
J'assume.
Ça va venir.
Nous l'espérons.
J'ai froid aux pieds.
Oui, parce qu'il neige.
Bien.
Reprenons.
Personne dehors. Rue ? Boulevard, avenue, désert. Un parc, désert aussi. Les arbres sont nus, le ciel opaque. Tels des griffes d'oiseaux de proie, les branches des arbres nus se découpent sur le ciel opaque.
Un bal de lucioles.
Comment ?
Des arbres noirs contre un ciel gris. Et au milieu, un arbre, un seul, vêtu d'une guirlande électrique lumineuse.
Un bal de lucioles.
Nous pouvons supposer que cela se passe durant les fêtes de fin d'année. Les dépressions sont fréquentes, les taux de suicide augmentent. Nous pouvons supposer qu'elle se sent seule dans la ville.
Et puis, je l'ai vu.
Lui, l'homme de sa vie.
Il regardait le même arbre, celui avec le rassemblement de lucioles. Il m'a vu aussi. Il m'a souri. Et j'ai marché vers lui, comme si je savais où j'allais.
Qui est-il ?
C'est lui. Le reste n'a pas d'importance. C'est lui.
Tu m'attendais ? Je suis là.
Il a dit. Et elle, elle ne disait rien. Puis, après un temps, il a dit aussi.
Je ne suis pas le prince charmant.
Je sais.
Le prince charmant n'existe pas.
Alors elle a ri. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds et elle l'a embrassé.
Le prince charmant existe, mais tu n'es pas lui.
Le prince charmant existe. Elle le savait. Toutes les femmes savent cela. C'est inné.
Et elle, plus que tout autre, elle était bien placée pour savoir qu'il existait.
Le prince charmant est un mythe ?
C'est une certitude. C'est pour cela que les femmes s'obstinent et l'attendent.
Toi aussi, tu l'attends ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je le connais déjà. Le prince charmant est une imposture. Il n'est pas ce qu'on dit qu'il est.
Quoi ?
Que devrait-il être ?
La réponse à toutes les questions. Le prince charmant n'est la réponse à rien. C'est juste plus de questions et encore plus de questions sans réponse.
Ça rend fou !
Viens, montons tout en haut de l'arbre.
Il traverse le bal de Luciole, monte tout en haut, jusqu'à la cime.
Je t'attendais.
Je sais.
Ils étaient tout en haut, sur la dernière branche, se regardaient.
C'était plus que ça. Ce n'était pas seulement un regard, c'était beaucoup plus grand.
Plongé dans l'autre. Se jeter du haut de la falaise.
Il y avait une falaise aussi ?
C'est une image, une métaphore.
Ne plus craindre le vide, parce que quelque chose résonne, vibre, parce qu'il y a un plein qui arrive par vagues.
Parce que tout d'un coup, les questions sans réponse s'évanouissent, ou n'ont plus d'importance. Quelque chose comme ça.
Ils ont lâché la branche. Ils se jettent ensemble dans l'immensité du ciel.
C'est une image ?
1, 2, 3, et...
Non, ils se jettent vraiment dans l'immensité du ciel.
Bien évidemment que c'est une métaphore.
Et ensuite ?
Il demande.
Qui suis-je ?
Et elle répond.
Tu es l'homme de ma vie.
Comment peux-tu en être certaine ?
Parce que je ne me pose plus la question. Regarde, nous sommes en train de nous envoler.
Ils se sont décrochés de l'arbre. Ils flottaient dans le ciel.
Une image, une métaphore, bien sûr.
Regarde, comme on vole.
Ils volent dans l'immensité du ciel.
Ils finissent bien par redescendre un jour.
Hélas, trois fois hélas. Oui, on finit toujours par redescendre. Et c'est là que ça se complique.
Pas si vite. Laissez-leur le temps. Avant la redescente, il y a le temps du bonheur.
Racontez.
Au temps du bonheur, il n'y a rien à raconter. Le bonheur, ça manque de ressort dramaturgique. Surtout le bonheur amoureux. Et puis, les mots du bonheur...
Essayez tout de même.
Une douceur comme toi, je n'en ai pas rencontré quatre dans ma vie. Tu es une violence, et j'en veux encore et encore. Mais que toi, rien. Je veux que le reste soit poussière. Une manière d'écarter le temps et de me mettre à toi. Je veux que ce soit et que ça demeure avec l'insistance d'une rature sur la feuille.
J'ai envie de tout prendre et de tout donner. De dire des mots qui tremblent et de me taire pour les entendre vibrer. Et t'aimer avec la confiance aveugle des enfants et croire que ça suffit.
Tu es là. Pas le temps de te chercher que tu es déjà là. Nous nous tenons. Je feuillette des nuits comme des paysages et à la fin du bouquin, je descends t'embrasser d'un coup. Et lentement, on s'endort, les paupières bien closes, comme des poupées inclinées.
Je veux que ce soit plein et que ça vibre, et que la gorge se serre, et que les larmes montent, et que le rire explose.
Mais la mer nous regarde, imbougeable. C'est la terre qui coule. J'ai envie qu'on ne soit qu'une âme, tous les deux. Serrer les cœurs noués, comme un linge froissé.
Mais ils finissent par redescendre.
Nous avons vécu des saisons sans ciel, des saisons de pluie et de sable. Des saisons qui ramassent les amours mortes.
Et alors ?
Et après ?
Scène 6.
Le monde fait mal.
Alors il se tait. Il ferme les yeux. Il est loin.
Toute chose lancée dans les airs finit par retomber. Quand l'amour se meurt, les lois terrestres réapparaissent. Ils ont fini par redescendre.
C'est l'amour qui ordonne le chaos. Et quand il s'éteint, le chaos revient.
Nous voudrions comprendre.
Comment on passe de l'immensité du ciel au chaos d'un coup ?
Je ne sais pas si ça arrive d'un seul coup. Peut-être que ça se glisse tout doucement, que ça rampe dans les interstices et que ça s'installe sans que l'on s'en rende compte.
Quoi ?
Le doute ? La peur ?
Comme les termites, on ne les voit jamais arriver. Ce n'est que quand ils ont bouffé tout l'intérieur et que ne reste que l'écorce et que celle-ci craquelle qu'on se rend compte.
C'est peut-être moi. J'ai douté. Questionné.
Je ne me permets pas de douter. Je t'aime. Point.
Ça ne suffit pas.
L'amour n'existe pas. Il n'y a que des actes d'amour. Lacan.
Allez vous faire foutre !
Je suis ainsi, je n'y peux rien. Je secoue, je cogne, je cherche la faille, j'ébranle pour voir si ça résiste.
La pulsion de la violence, détruire.
Objection.
Attention, quand on cogne trop fort, on finit par tout faire péter.
Je sais, mais c'est plus fort que moi. Si tu me laisses me démerder avec « je t'aime et point », avec « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », je ferai tout péter.
Nous y sommes, elle avoue.
C'est une image, une métaphore.
Dis-moi, mon amour, où veux-tu que je me la foute, ta déprime ?
Vous admettrez qu'il est difficile d'y trouver du sens.
Les questions sans réponse, ça rend fou. Quand tu te tais, que tu t'éloignes et que tu refuses de répondre, quand tu fais ça, tu deviens le prince charmant. Je ne veux pas dormir, je veux vivre.
Je me demande, mais vraiment, excuse-moi, je me demande comment tu y arrives, parce que moi, j'y arrive pas du tout, à penser à la place de l'autre. Je ne me permets pas de douter. Mais tu me prends à un premier degré qui ramasse tous les clichés. Comment peux-tu vivre avec ça ? Dis-moi. Et tu me fous le camp de toi, et je t'aime, et tu me rebrises tout ce qui déjà est en miettes, et je t'aime, et... Pas grave.
J'ai toqué à une porte et quelqu'un m'a pris pour un dessin, bien taillé, sur mesure, et qui n'est que dans sa tête.
Nous avons toujours du mal à comprendre comment on passe de l'immensité du ciel à ça.
Moi aussi. Je ne comprends pas, et ça rend fou. J'ai envie de tout péter.
Ne tenez pas compte de cette dernière phrase.
Comment passe-t-on de l'immensité du ciel à ça?
Mais il se tait, ferme les yeux. Elle dit...
Tu dors? Rien. J'insiste.
La pulsion de la violence.
Tout bas, en chuchotant.
En chuchotant. Tout contenu. Mais d'une violence terrible. Jamais rencontré violence pareille.
Tu dois me répondre. Reviens. Dis quelque chose.
Il ouvre les yeux, s'étire. Il dit...
J'ai faim.
Alors je me dirige vers la cuisine. Allumer le gaz, verser l'eau dans la casserole, puis la casserole toujours dans ma main droite, je pose ma main gauche sur le brûleur.
Sans crier, mais d'une violence.
Je ne sens plus rien, de toute façon. Je ne me rappelle plus, de toute façon. Peut-être que j'ai hurlé. Peut-être qu'il a senti l'odeur.
La chair humaine, quand elle brûle, a l'odeur de porc rôti.
Quelqu'un m'a dit ça un jour. Peut-être que j'ai hurlé. Peut-être que c'était l'odeur de porc rôti. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus.
En sortant des urgences, elle a commencé à dériver.
Vers l'extrême de ma gauche.
Ce n'était pas vraiment un choix, juste le poids des bandages.
Au bout de mon bras, il y avait ce boulet blanc. Et tout mon corps penchait. J'étais devenue une tour de piste penchée à gauche. Voilà.
Il paraît que le déséquilibre est facteur de mouvement. Un boulet blanc au bout de son bras gauche a imprimé un mouvement. Après, ce n'était plus qu'une histoire d'inertie.
Voilà.
Son cœur s'est brisé. Peut-être, oui, pourquoi pas. Ce pourrait être le cœur. À gauche encore, le mouvement. Quand ça s'emballe, on ne peut plus l'arrêter.
Mais... c'est d'une banalité affligeante. Tout le monde a un jour eu le cœur brisé. C'est pas une excuse pour poser des bombes. Non.
J'avais mal. Une douleur, ça irradie. Partout.
Le corps compense. Demandez à n'importe quel kiné, n'importe quel ostéo, une douleur non soignée à votre cheville droite peut foutre votre épaule gauche en l'air. Tout le monde sait ça.
Tout me faisait mal.
Tout votre corps vous faisait mal?
Non, pas tout mon corps. Tout. Le monde.
Le monde vous faisait mal?
Oui. Terriblement.
Mais...
le monde me faisait mal, oui.
Et alors? Que le monde fasse mal, est-ce une raison?
Il y avait autre chose.
Quoi?
Elle. Elle me parlait. Jour et nuit. Je l'entendais. La femme dans la chambre blanche.
Scène 7.
La femme dans la chambre blanche.
Elle me parle, cette femme, nuit et jour. Sa voix qui ricoche aux parois de mon crâne. Écho, m'emplit.
Elle dit...
je ne céderai pas.
Une marée monte en moi. Et je vais me noyer de l'intérieur. Dans ma tête, la femme dans la chambre blanche.
Elle dit...
je ne céderai pas.
Une chambre toute blanche, de la lumière. Peut-il y avoir trop de lumière?
La lumière blanche, aveuglante, ne l'éteigne jamais. Mon corps ne sait plus s'il fait jour ou nuit dehors. Non, pas de coups, mais de la lumière. Les corps brisés, ils ont cassé le sommeil. Je ne céderai pas.
Je pensais, j'ai cru... alors que je dormais, que c'est la nuit qui dévorait tout. Je pensais, j'ai cru que c'est le sommeil qui éloignait de la vie, qui nous volait à la vie.
Elle dit...
je ne céderai pas.
La lumière, à présent, est devenue une arme, un instrument de torture. Oui, la lumière que je cherchais, dont je voulais me brûler les yeux pour vivre plus fort, pour échapper à la mort, oui, la lumière. Elle peut aussi être une arme. Elle dit
« je ne céderai pas ».
Un papier et un crayon, parfois, sous les regards des gardes.
Pas de fenêtre, une boîte blanche. Isolement le plus total, aucun contact avec les autres. Nous séparer comme on ampute.
Elle dit
« je ne céderai pas ».
Le silence, comme au bois dormant. Je connais ça. Le silence, comme lui. Quand il s'éloigne et se tait. Le silence, comme quand l'amour se meurt et que la douleur insoutenable imprime le mouvement.
Empêcher toute communication, tout échange. Les pensées se détraquent, deviennent des boucles, tournent sur elles-mêmes. Avec le corps, il leur faut briser la pensée trop dangereuse. Beaucoup plus que l'arme dans ma main. Infiniment plus dangereuse. Privée de sommeil, briser le corps, anéantir la pensée.
Elle dit :
bien qu'il n'y ait plus de tortionnaires, il y a des gens qui pressent certaines manettes à un autre étage.
Quelqu'un s'amuse ?
Il s'amuse avec nous. Je ne céderai pas.
Je ne sais pas qui elle est, d'où elle vient. Mais je l'entends dans ma tête. Je la vois aussi.
Elle s'appelle Ulrike. Ulrike Meinhof.
Qui es-tu ? Je suis la femme dans la chambre blanche.
Ulrike Marie Meinhof, née le 7 octobre 1934 à Oldenburg, était journaliste avant de devenir en 1970 membre du groupe terroriste d'extrême gauche Rote Armee Fraktion. Elle était considérée comme le cerveau du groupe. On l'a retrouvée pendue dans sa cellule de la prison de Stuttgart-Stammheim dans la nuit du 8 au 9 mai 1976.
Elle dit : je ne céderai pas.
En préface au recueil de textes des prisonniers de la fraction armée rouge et dernières lettres d'Ulrike Meinhof, cahier libre, novembre 1977, Jean Genet écrit
« Plus ou moins obscurément, tout le monde sait que ces deux mots, procès et violence, en cachent un troisième. La brutalité. La brutalité du système. Et le procès fait à la violence, c'est cela même qui est la brutalité. Et plus la brutalité sera grande, plus le procès infamant, plus la violence devient impérieuse et nécessaire.
Le monde fait mal ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend gronder ainsi ?
Le monde, sa rage, sa douleur qui déferle comme une lame de fond. Tout est en crue. Cette marée, je me noie à l'intérieur.
En faisant cette distinction entre violence et brutalité, il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre, en laissant à la phrase sa fonction accusatrice à l'égard des hommes qui emploient la violence. Il s'agit plutôt de rectifier un jugement quotidien et de ne pas permettre au pouvoir de disposer à leur gré du vocabulaire comme ils le font avec le mot « brutalité » qu'ils remplacent par « bavure » ou « incident de parcours ».
Jean Genet.
Peux-tu l'arrêter ?
Quoi ?
Tout ça, ce qui gronde, déferle et noie.
Personne n'arrête les volcans.
Comme les exemples de violence nécessaires sont incalculables, les faits de brutalité le sont aussi, puisque la brutalité vient s'opposer toujours à la violence. Je veux dire encore à une dynamique ininterrompue qui est la vie même. La brutalité prend donc des formes pas décelables immédiatement comme brutalité. L'architecture des HLM, la bureaucratie, le remplacement du nom par le chiffre, l'autorité de la machine sur l'homme, la codification des lois prévalant sur la coutume, la progression numérique des peines, l'usage du secret empêchant une connaissance d'intérêt général, l'inutilité de la gifle dans les commissariats, le tutoiement policier envers qui a la peau brune, la courbette obséquieuse devant le pourboire, la marche au pas de loi.
Jean Genet.
Elle ne s'est pas suicidée, tu sais.
Je sais, ils l'ont tuée.
Elle dit :
la colère comme un raz de marée, la rage, je me noie de l'intérieur, tout faire péter.
Elle dit :
je ne céderai pas.
Scène 8.
Tout faire péter.
Chers téléspectateurs, nous venons d'assister à un véritable coup de théâtre dans le procès de la Belle au bois dormant.
Il semblerait que la princesse soit reliée d'une manière étrange au groupuscule terroriste d'extrême gauche.
A-t-on besoin d'ajouter quelque chose après ce témoignage ? Ça équivaut à plaider coupable. Elle était en relation avec Ulrike Meinhof. Elle se réclame elle-même de cette filiation.
Andreas Bader et Ulrike Meinhof sont morts depuis longtemps. Les mouvements révolutionnaires aussi. On nage en plein délire. Ces réseaux ont été démantelés. Comment voulez-vous qu'elle soit en relation avec eux ? Condamnez-la pour spiritisme tant que vous y êtes.
Chers téléspectateurs, devant la cour des assises, la police a dû intervenir.
Il y a eu des échauffourées entre les forces de l'ordre et une partie de l'opinion publique qui, semble-t-il, était en train de construire des bûchers.
Nous vous rappelons que nous sommes tout de même en train de juger la Belle au bois dormant.
Si nous avons de commun accord établi ce code depuis le début de ce cirque...
Si nous faisons le procès d'un personnage de fiction...
Alors nous sommes bien obligés de prendre en considération...
La possibilité pour l'accusé d'être en relation avec des personnages du passé.
J'existe. Je suis aussi réelle que le petit prince.
Vous voyez ?
On ne s'en sort pas.
Récapitulons.
Qu'est-ce qu'on a ?
Des faits ! À chaque attentat, elle a dit « c'est moi ». Chacun de ses actes a été revendiqué par la Belle au Bois Dormant.
N'importe qui aurait pu l'écrire, n'importe qui aurait pu signer la Belle au Bois Dormant.
La princesse apparaît sur les films des caméras de surveillance. Elle était présente sur les lieux.
Et alors, c'est son droit constitutionnel que d'être libre de se déplacer.
Les experts psy nous ont expliqué la pulsion de mort qui est à l'origine de tout. La défense nous a parlé d'un mouvement vers l'extrême gauche, un mouvement qui s'emballe et que rien ne peut arrêter. L'accusée elle-même a employé les mots « j'ai envie de tout péter ». Elle prend appui sur Bader, sur Meinhof, sur Bettelheim, sur Genet. Belle brochette de gauchistes radicaux et dangereux. A-t-on besoin de continuer ? La Belle au Bois Dormant est coupable.
Coupable ? Pas forcément. Je n'en sais rien, mais c'était peut-être moi, à chaque fois.
Elle avoue.
Objection.
Coupable ?
La première fois, c'était elle. Je le sais. J'ai vu.
Je n'ai jamais tenu d'arme dans ma main. Je n'ai pas fabriqué une seule bombe. Jamais lancé de pavé ni de cocktail Molotov. Mais c'était peut-être moi. Ma colère. Ma rage. Celle qui me noyait de l'intérieur. Elle a peut-être débordé. Elle a peut-être tout contaminé. Tout englouti.
Elle avait la main bandée en sortant des urgences. Elle se taisait. Marchait calmement, avait un petit sourire. Mais c'était d'une violence, ce silence. Quelque chose de terrible dans les yeux.
La mer, dans ses yeux. La mer en furie.
J'ai remarqué qu'elle penchait, qu'elle dérivait.
Il aurait pu lui prendre la main, l'aider à supporter ce poids, l'empêcher de dériver. Mais non, il se taisait et marchait à côté comme si ça ne le concernait en rien. Il voulait s'arrêter au centre commercial.
Je n'avais plus de cigarette.
Je l'ai attendue dehors. Et elle est montée, la lame de fond. Tout s'est mélangé. Lui, moi, ses cigarettes, son silence, ma main bandée, la voix de la femme dans la chambre blanche et le monde qui fait mal.
Il n'y a rien de pire qu'un centre commercial le samedi. Si on s'arrête et si on regarde sans participer, très vite, ça devient insoutenable.
Les chariots qui débordent, les promotions en grosses lettres fluorescentes, eux tous qui courent droit devant, les cartes de crédit, la station essence. Ils ne se parlent pas, ils achètent.
Nous étions de la chair à vendre. Nous étions de la chair à canon. Puis nous sommes devenus de la chair à consommer. À vendre, à canon, à consommer.
Et forcément, devant le centre commercial, le samedi, il y a quelqu'un qui mendie. Quelqu'un qui a faim. Ou froid, ou l'on s'en fout. Il y a eux et lui. Et la lame de fond arrive.
Quand je suis sortie, elle a dit...
J'ai envie de tout péter.
Elle regardait le centre commercial, les chariots, les pancartes fluorescentes, la station essence, les clochards. Elle disait...
C'est insoutenable.
Et tout a explosé.
Lui s'est jeté à terre. Elle, elle n'a pas bougé pendant l'explosion.
C'était peut-être moi. J'ai voulu ça. Que tout saute, que tout ça disparaisse. Je voulais l'explosion pour sortir du silence. Et le centre commercial a volé en éclats.
Quand les secours et la police sont arrivés, elle se tenait immobile face aux ruines. On l'a repoussée derrière le périmètre de sécurité.
Alors elle s'est dirigée vers la première cabine téléphonique et elle a appelé et elle a dit
« C'est moi, le centre commercial. C'est moi qui l'ai fait péter.
Déclinez votre identité. » a dit la personne à l'autre bout du fil.
Je suis la Belle au Bois Dormant.
Et puis, elle est partie.
Où vas-tu ?
Je m'en vais. Je te quitte.
Comme ça ? Maintenant ?
Oui.
Mais attends, on pourrait en parler, s'asseoir quelque part, boire une bière, en discuter.
C'est inutile. Tu m'as brisé le cœur.
Et elle s'est retournée. Elle est partie.
Jamais vu une rage pareille. Un regard qui fasse autant peur.
Il était une fois la Belle au bois dormant.
Il était une fois une princesse condamnée au conte de fées qui en avait ras le cul de dormir.
Il était une fois une princesse qui s'échappa du conte de fées pour embrasser le monde. Le monde qui gronde.
Le monde qui fait mal.
Elle embrassa le monde. Elle traversa un bal de lucioles. Elle rencontra l'homme de sa vie.
Elle rencontra le silence. Elle se brûla la main, puis elle commença à pencher, à dériver. Elle eut le cœur brisé.
Elle entendit une voix cogner contre les parois de son crâne.
Elle entendit la femme dans la chambre blanche répéter « Je ne céderai pas ».
C'était peut-être moi, ma colère, ma rage. Celle qui me noyait de l'intérieur. Elle a peut-être débordé. Elle a peut-être tout contaminé, tout englouti. J'avais tellement envie de tout péter. Et le centre commercial a volé en éclats.
Après, ça s'est enchaîné. Elle était là, à chaque fois, présente sur les lieux, captée par les caméras de surveillance.
À chaque fois, la même douleur, la même colère. Le monde fait mal.
Le monde fait douleur et colère et rage.
On m'a dit qu'il fallait faire avec, qu'il fallait s'habituer. Se blinder, c'est ce qu'on m'a dit. Faire comme si ça n'existait pas.
Rien ne justifie la violence qu'on nous fait. Nous étions de la chair à vendre. Nous étions de la chair à canon, puis ils ont fait de nous de la chair à consommer. À vendre, à canon, à consommer.
Scène 10.
Comment ça finit ?
Rien ne justifie la violence !
La violence qu'on nous fait !
Et pourtant...
Elle est coupable !
De quoi ?
D'avoir voulu, d'avoir souhaité !
Coupable de ressentir,
de penser !
Il leur faut briser la pensée. Trop dangereuse.
Trop dangereuse.
Beaucoup plus que l'arme dans ma main. Infiniment plus dangereuse.
De l'envie au passage à l'acte, il y a un monde.
Il y a un chemin.
De l'envie au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas.
Il y a un chemin qui mène à la révolte, qui mène à la violence.
Son point de départ, c'est toujours la douleur.
Non, rien ne justifie la violence. Et pourtant...
De la douleur à la violence... Il n'y a qu'un pas. De la douleur à la colère. De la colère à la violence.
Il faut faire avec. Il faut s'habituer.
Se blinder.
Faire comme si ça n'existait pas.
Et pourtant, il y a toujours eu des gens qui ont dit...
Je ne céderai pas.
Il y aura toujours des gens qui diront...
Je ne céderai pas.
Rien ne justifie la violence.
Le répéter 100 fois. Le répéter 1000 fois, ces mots-là. Le répéter comme si le langage et le sens ne nous appartenaient pas. Répéter ces mots, ces phrases toutes faites, pour le vider des sens. Répéter des phrases toutes faites et anéantir la pensée.
Rien ne justifie la violence.
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 Et ça ne veut déjà plus rien dire. Remplacer la pensée par des phrases toutes faites.
Et pourtant, il y aura toujours des gens qui diront
« Je ne céderai pas ».
Il y aura toujours des gens qui refuseront de s'habituer, de faire avec,
de se blinder.
Il y aura toujours des gens qui diront
« Je ne céderai pas.
Je ne céderai pas.
Je ne céderai pas. »
Écoutez ces mots. Ils ne se délavent pas. Ils résonnent.
Nous ne céderons pas.
Pas besoin de fabriquer des bombes, mais s'armer tout de même.
La pensée, infiniment plus dangereuse que l'arme dans ma main.
Et répéter les mots. Leur dire que certaines phrases ne se délavent pas.
Je ne céderai pas.
Je ne céderai pas.
Je ne céderai pas.
Nous ne céderons pas.
Et dans le silence qui suivra ces mots, écoutez la vie vibrer.
Écoutez vibrer la vie et savoir que nous avons le choix.
Mais comment ça se termine alors ?
Ça ne se termine pas.
Ça ne se termine jamais. Les histoires, on les réécrit tous les jours, sans cesse.
Mais le procès ?
A-t-elle été condamnée ?
Qu'est-elle devenue ?
Il manque la fin.
Il manque, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Vous êtes vraiment con ! Cette phrase n'est pas une fin, mais un début.
À ton avis, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle a réussi à s'échapper ?
Oui, elle a disparu un jour. Elle est partie sans rien dire, sans rien emporter. Elle a traversé cette mer, cette montagne, cette plaine, cette fleuve, cette forêt... Elle a marché, fait de l'autostop, pris de trains, des bateaux, des avions, et se joint aux gitans, aux gens du voyage, aux saltimbanques.
Et alors, puisque ce n'est qu'un début,
alors je vis dans le monde, cruel et doux. La nuit est vraiment nuit, elle susurre, velours froissé, caresse des yeux fatigués. Au loin, les derniers rires teintent, cliquetis des couverts que l'on ramasse à la fin du dîner. Le cristal soupire et la peau se love contre la nuit. Je m'enfonce sans tomber, vacille à peine, chuchotement du sable entre les orteils. Je ne vois pas la route, elle se déroule comme une plainte. Une petite chanson tzigane accordée en mineur. Je ne les vois pas, mais leurs pas égrènent le temps. Je vais les suivre et épouser cette plainte jusqu'au matin. Par-delà l'horizon, s'il le faut, dans l'immensité du ciel.
L'histoire de la princesse
ou le procès de la Belle au bois dormant
de Sonia Ristich.
Avec les élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique,
Éléonore Arnaud,
Ulysse Barbry,
Julie Bertin,
Lou Chauvin,
Pauline Clément,
Antoine Cordier,
Pierre Duprat,
Amir Elkassem,
Anne Fournier,
Zita Enro,
Antoine Joly,
Timothée Lepelletier,
Antoine Louvard,
Anne-Clotilde Rambou,
Marie Sergent,
Véronica Chabavska.
Bruitage, Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire, Laurence Courtois.
Équipe de réalisation, Mathieu Tourin, Jean-Richard Dufour, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.
Ce texte a été repéré par le bureau de lecture de France Culture.